Et donc, nous voici de retour avec une chanson, une histoire, vous disais-je, avec une belle chanson d'amour intitulée, et tout le monde la connaît, en tout cas les plus nombreux d'entre vous, RF Shel Shoshanim, j'y arriverai, c'est-à-dire une soirée parmi les roses ou une soirée de roses. C'est bien cela. Bonjour Irit Azoulay.
Bonjour Didier.
Comment ça va bien?
Ça va bien.
Ça va bien.
La fête des amoureux.
Ah ben oui, je l'embrasserai deux fois plus que d'habitude. Je ne sais pas si j'aurai encore le temps de faire beaucoup d'autres choses aujourd'hui. Bien. Avant toute chose, RF Shel Shoshanim, je le disais, c'est une chanson que tout le monde connaît, que tout le monde a dans la tête, sinon au bout des lèvres. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, on va écouter à quoi ça ressemble.
לילה יורד לאט, ברוח שושנה נושבה. אבא הלחן שלך שיר בלט, זמר של אהבה.
Je vous disais, aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, tout béave, il s'agit de la fête de l'amour, un peu comme la Saint-Valentin, encore que, mon avis personnel, ce qu'on a écouté là, c'est un peu nostalgique finalement, ça respire pas vraiment le grand enthousiasme amoureux qu'on pourrait imaginer.
Ben, c'est une façon de draguer, si puis-je dire, enfin c'est romantique,
c'est là, une...
mais je vous expliquerai les paroles tout à l'heure, mais vous disiez Saint-Valentin, mais oui, il y a beaucoup de gens qui font ce lien, mais c'est pas tout à fait la même chose, ça reste quand même discutable. Même si d'aucuns soutiennent que ces deux fêtes auraient une origine commune. Ainsi, le 15 du mois de Av, qui tombe maintenant en plein mois d'août, et le 14 février seraient les avatars d'une fête païenne ou agricole, célébrant la fertilité. Pendant la saison des vendanges, des rondes de jeunes filles avaient lieu dans tout le Moyen-Orient antique, dans le but de fertiliser la terre et les vignes. Et c'est là que la fête chrétienne s'éloigne de ses origines juives, car elle a choisi une date opposée, en plein hiver, qui ne correspond pas au temps de la récolte et des vignes. Alors que Tou B'Av se fête en plein milieu du mois le plus chaud de l'année et en pleine vendange. D'ailleurs, je me suis demandé s'il n'y avait pas plutôt un rapport entre Tou B'Av et l'Assomption, le jour où la Vierge Marie monte au ciel, qui lui tombe le 15 août. Mais je n'ai rien trouvé qui puisse appuyer cette thèse. Si un de nos auditeurs a quelque chose à me dire, ça m'intéresse.
Peut-être, la montée au septième ciel, c'est...
Je suis sûre qu'il doit y avoir quelque chose, mais bon, faut chercher. En tout cas, pour revenir à la fête de Av, elle apparaît dans la Bible, dans le livre des Juges, et elle représente l'amour et la réconciliation au sens très large. Mis à part la récolte du raisin, cette fête symbolise l'union entre Dieu et son peuple. Ça, c'est le niveau élevé, spirituel, si on peut dire. Ensuite, ça représente aussi l'amour au sein même du couple et du peuple. Donc, au niveau collectif, les uns envers les autres, et au niveau individuel, enfin à tous les niveaux. Dans les temps bibliques, toutes les jeunes filles célibataires de Jérusalem sortaient danser dans les champs et les vignobles, vêtues de robes blanches, et les jeunes hommes célibataires allaient à leur rencontre pour trouver l'élu de leur cœur. Comme vous le savez, le calendrier hébraïque est à la fois lunaire et solaire. En fait, les mois sont lunaires, mais les années, elles, sont solaires. Ce qui fait que le 15 Av n'est pas une date aléatoire. Il s'agit toujours d'un jour qui tombe en pleine lune. Et la pleine lune, depuis la nuit des temps, est associée à la fertilité. Du point de vue astrologique, le soleil, qui est symbolisé dans la Kabbale comme une force masculine, influence et atteint sa puissance maximale au mois de Av, au cœur de l'été. En revanche, la lune symbolise le pouvoir féminin de la création divine. C'est elle qui accueille la lumière et qui la retient en elle. Tout comme la lune ne brille pas d'elle-même, mais reflète la lumière du soleil, de même, tous les êtres humains reçoivent la lumière vivifiante du Créateur, Dieu. À Tou B'Av, toutes ces forces opposées vont s'unir. Le soleil et la lune, le masculin et le féminin, et puis le divin et l'humain. En ce jour, ces forces vont fusionner et parviendront à une connexion parfaite, malgré leurs différences. Cette fusion entre le créateur et l'être créé apporte au monde un pouvoir spécial qui s'appelle l'amour. Aujourd'hui, le commandement biblique « Ve'ahavta le're'acha kamocha » qui dit « Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même » va prendre tout son sens. Selon la Kabbalah, si nous voulons nous connecter au Créateur, nous devons imiter ses qualités à lui, qui sont l'amour, la compassion et la miséricorde, entre autres. C'est pourquoi nous devons d'abord fonder nos relations avec nous-mêmes et avec les autres sur base de ces qualités-là. Et ensuite seulement nous pourrons aimer notre Seigneur Dieu, comme il est dit « Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavcha ou bechol nafshecha ou bechol meodecha ». L'amour est donc clairement une valeur active. Elle ne peut jamais exister dans la passivité. Une personne aimante veut être bonne, veut avoir un impact sur l'autre et donner d'elle-même. D'abord, l'enfant connaît l'amour envers ses parents, naturellement. Et puis en grandissant, il découvrira l'amour envers le sexe opposé. Et ensuite, il essayera d'atteindre le niveau d'aimer son prochain comme de s'aimer soi-même, ce qui est très difficile, vous le savez, Didier. Mais ce n'est que plus tard, on espère un jour, qu'on pourra aimer véritablement le Créateur Dieu, donc la fusion des temps messianiques. Et donc, selon le rabbi Isaac Luria, la meilleure façon et la meilleure leçon pour apprendre à aimer et développer ses capacités d'amour, c'est de vivre en couple. Parce que dans un couple, il faut être à l'écoute l'un de l'autre, il faut faire des compromis, avoir de la patience, être sensible, se respecter mutuellement, avoir confiance en l'autre. Et tout ça pendant de très longues années, n'est-ce pas ?
Tant que c'est pas de trop longues années, ça.
On espère le plus long possible, mais en grandissant. Selon le judaïsme, l'amour est un travail de tous les jours. Ça s'apprend, ça se travaille et ça se peaufine toute sa vie dans le but d'atteindre le niveau le plus élevé d'un jour pouvoir aimer l'humanité tout entière. Mais tant qu'on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer l'autre. Notamment, chaque peuple doit d'abord accepter d'être composé de gens très différents dans leurs croyances, dans leur mode de vie, etc. afin de pouvoir aimer les autres peuples, dont ses ennemis jurés, de sorte à ce qu'on atteigne la paix ultime des temps messianiques. Pour revenir au peuple juif, il est clairement stipulé que le temple de Jérusalem, symbole de l'unité du peuple d'Israël, fut détruit par les Romains parce que les Juifs éprouvaient de la haine gratuite l'un envers l'autre, ce qu'on appelle « sinat chinam ». Cette expression énonce une haine injustifiée dans laquelle une personne déteste une autre sans aucune raison objective, mais simplement parce qu'elle a un point de vue différent du sien. C'est pourquoi le jour du 9 du mois de Av, c'est-à-dire Tisha B'Av, qui est passé il y a une semaine, c'était le jour de la destruction du temple par les Romains, et bien sûr, c'est devenu un jour de deuil. De cette manière, on se dit qu'une semaine plus tard, Tou B'Av, la fête de l'amour, peut constituer une sorte de réparation, un tikkun de Tisha B'Av, en faisant de sorte que chacun de nous réussisse à aimer l'autre d'un amour gratuit.
Et dans le Rêve Shel Shoshanim, on le disait, ça veut dire une soirée parmi les roses. Moi, je remarque une chose, c'est que dans toutes les cultures, finalement, la rose, ça reste le symbole absolu de l'amour.
Incroyable, mais oui, c'est ça, la rose. C'est l'une des plantes les plus cultivées au monde. Appréciée pour sa beauté et sa senteur, elle devient la reine des fleurs. Elle est célébrée depuis l'Antiquité par de nombreux peintres, poètes et écrivains. Mais savez-vous, Didier, que la rose est l'une des plantes les plus célèbres dans la Bible ?
Absolument pas.
Dans la Bible, elle s'appelle Shoshana ou Shoshan, c'est kif-kif. Elle apparaît surtout dans le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Il existe un débat sur son identification, mais selon toute vraisemblance, il s'agit soit du lys blanc ou de la rose, telle qu'on l'appelle aujourd'hui en hébreu « vered ». Ceci dit, on y trouve aussi l'expression « Shoshanat Yaakov », littéralement c'est la rose de Jacob, mais ça c'est plutôt un surnom du peuple de Jacob, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Erev Shel Shoshanim, c'est donc un chant d'amour écrit par Moshe Dor et composé par Yosef Hadar, dit Yoske, en 1957. Les paroles sont fortement inspirées du Cantique des Cantiques, ce qui donne au chant une dimension poétique et intemporelle. Moshe Dor, le parolier, va raconter. Un soir, alors que je venais de me mettre au lit, Yosuke débarque à l'improviste dans mon petit appartement à Tel Aviv, prétextant que c'est la faute de cette fichue mélodie qui le hante. Il me demande de l'écouter et d'écrire des paroles que cette musique évoque en moi. Il sort sa guitare et il m'a joué cette mélodie encore et encore jusqu'à ce que je n'en pouvais plus. J'ai saisi un morceau de papier et j'ai griffonné quelques mots dénués de sens juste pour qu'il me fiche la paix. Après son départ, je n'arrivais pas à dormir parce que cette mélodie ne me lâchait plus. Jusqu'à ce que je reprenne le bout de papier et que je trouve la muse. C'est comme ça que R.F. Shel Shoshanim est né.
Eh bien, dites-moi, apparemment, cette chanson gagne vite en popularité en dehors des frontières même d'Israël, puisque, étant enfant dans les mouvements de jeunesse, c'était dans les Shira Bet Sibour, une des chansons phares. Elle est traduite d'ailleurs dans différentes langues, et R.F. Shel Shoshanim devient un vrai succès international.
Vous n'imaginez pas l'ampleur de ce succès. R.F. Shel Shoshanim sera d'abord interprété par des dizaines de chanteurs israéliens, mais la version la plus connue, c'est celle des Doudaïm, qu'on vient d'entendre. Puis, la diffusion de cette chanson dans toute l'Europe et aux États-Unis lui vaut des reprises dans des styles musicaux très différents, depuis sa naissance en 1957 et jusqu'à ce jour. Cette mélodie est chantée dans de nombreuses synagogues de par le monde, généralement le Shabbat durant la prière du Moussaf, sur d'autres paroles bien sûr, mais elle va accompagner les mariés aussi sur leur chemin vers la Choupa, le dénuptial. Mais le plus surprenant, c'est que cette mélodie ait conquis les églises en Scandinavie.
Ah bon ?
Ah oui, en 1967, figurez-vous, un prêtre finlandais de l'église évangélique luthérienne écrit un poème chrétien, d'autres paroles, en finnois, sur la mélodie de Erev Shel Shoshanim, et depuis lors, ce chant ouvre la liturgie du siège luthérien de l'église d'État de Suède, de Norvège, du Danemark, de Finlande et d'Islande jusqu'à ce jour. Quelques années plus tard, à Belgrade, le groupe DAH interprète Erev Shel Shoshanim en serbe, qui est sorti en 1974 sous le titre de Shoshana, qui apparemment est aussi le même prénom et la même signification en serbe.
Ah ben écoutez, c'est pas tous les jours qu'on écoute de la musique et des chansons serbes sur Judaïka. Voilà ce que ça donne. C'est joli le serbe finalement.
Ah oui. Oh, vous pouvez le retrouver sur Internet. En 1975, donc une année plus tard, ce même groupe yougoslave, DA, va s'installer en Belgique, figurez-vous. Et leur version Shoshana ravage les hit parades dans toute l'Europe, ainsi qu'en Allemagne de l'Ouest. Et c'est là que les supporters de l'équipe de Nuremberg l'entendent et ils vont l'emmener sur le terrain de football. Et je ne sais pas si vous avez fait le lien, mais on l'entend tout le temps sur les terrains de football. Ça va devenir leur hymne et l'hymne d'ailleurs de plein d'équipes de foot. En 2015, les réalisateurs sud-coréens introduisent cette mélodie dans la série télévisée Six Flying Dragons. Ça, je viens de le découvrir, je ne savais pas. Et en 2016, l'artiste français The Parakeet insère cette mélodie dans la chanson Save Me.
Eh ben, allons-y. On reconnaît bien l'air, mais finalement, ça perd un petit peu son essence. Hein. Ça n'engage que moi.
Mais voilà, chacun va finalement faire d'autres choses. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de vous envoyer le Cachemire, mais celui-là aussi est intéressant parce que le DJ américain Cachemire, très récemment, il y a pas longtemps, il en a fait une interprétation electro house. Et je pense que RFL Shoshanim n'a pas encore fini de nous surprendre.
Ah non, ben ça, à mon avis, ça nous permettra peut-être de refaire un autre, une chanson, une histoire sur ce thème avec d'autres versions ultérieurement. Merci infiniment, Irit, d'être venue, comme chaque fois, nous faire découvrir la jeunesse de certaines chansons. Aujourd'hui, c'était RFL Shoshanim et je vous propose de retrouver la version de base de Adudaim.
Oui, et surtout, aimez-vous, pas que aujourd'hui, mais il faut y penser.
Retenez bien la leçon. En résumé, aimez-vous, aimons-nous, et aimons-nous vivants,
voilà,
surtout.
Et aimez les autres, même très différents. C'est ça qui est très difficile.
Avec une pensée, Élise le disait dans le journal, avec une pensée, bien sûr, pour les otages aujourd'hui. RF Shoshanim, merci pour une chanson, une histoire.
À bientôt.
À très vite. Samar.
ערב של שושנים נצאנה אל הבוסתן מור בסמים ולב הונה לרגלך מפתן ערב של שושנים נצאנה אל הבוסתן מור בסמים ולב הונה לרגלך מפתן לילה יורד לבד ברוח שושן נושבה אבא אל חי שלך שיר בלט זמר של אהבה לילה יורד לבד ברוח שושן נושבה שלך שיר בלט זמר של אהבה שחר הומה יומה ראשך מהלת אל הלים פריך אל הבוקר שושנה הקטה פיינו לי שחר הומה יומה שך מהלת אל הלים פריך אל הבוקר שושנה הכתפינו לי לילה יורד לאט ברוח שושן נושבה אבא אל חי שלך שיר בלט זמר של אהבה לילה יורד לאט ורוח שושן נושבה אבא אל חי שלך שיר בלט זמר של אהבה